Merci beaucoup. Hein. Amen. Est-ce qu'on peut remercier votre pasteur aussi, David ? Hein ? On ne le fait pas souvent. Bien, gloire à Dieu. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Vous allez bien ? Oui, moi je suis ravi d'être dans cette jolie ville. Pour ceux qui ne le savaient pas, moi je suis marié à une Suissesse, à une Biennoise. Donc on l'améliore. Elle s'est mariée à un Français, donc elle va mieux. Et puis, on aime particulièrement la ville de Neuchâtel. C'est là où je l'ai demandé en mariage à l'époque, il y a plus de 10 ans maintenant. Donc, c'est une joie pour moi d'être avec vous, vraiment. Vous avez les salutations de l'Église de la Porte Ouverte. On est un seul peuple en Jésus. Amen. Un seul peuple, un seul corps au ciel. Je l'ai dit hier, on mangera de la fondue et de la choucroute l'un après l'autre. Et avec Jésus, ça c'est merveilleux, hein. Je suis heureux d'être avec vous, vraiment heureux de voir ce que Dieu fait. Je crois vraiment que la ville et le pays de Suisse a vraiment besoin de personnes, de chrétiens et de chrétiennes qui soient fiers de qui ils sont en Jésus. Peut-être que vous êtes là pour la première fois, il y a peut-être des personnes, vous êtes là pour la première fois. J'aimerais vous dire que suivre Jésus, ce n'est pas une religion. On ne vient pas suivre une religion, on ne vient pas avoir une nouvelle étiquette en plus sur notre passeport suisse ou français. On vient suivre quelqu'un. Et c'est de ce quelqu'un que je voudrais vous parler ce matin. C'est de ce quelqu'un. Est-ce que vous savez que 70, je m'adapte aux Suisses, 74% des accidents de la route se passent sur un trajet quotidien. 74%, pourquoi ? Parce que sur le trajet quotidien, nous ne veillons pas au danger. Quand on connaît la route, on ne fait plus attention au danger. Et ce matin, je vais vous parler d'un sujet qui, pour les chrétiens sûrement, c'est le sujet que vous êtes censé connaître. Si vous ne le connaissez pas, il y a peut-être un souci, on va essayer de régler ça tout à l'heure. Mais c'est le sujet que nous sommes censés connaître. J'aimerais vous parler de ce que Jésus a fait sur la croix ce matin. On se dit, ah non, mais ça, il vient, il traverse un pays pour venir nous parler de ça. J'aimerais vous dire que c'est le sujet central de la Bible. Ce n'est même pas un sujet, c'est le centre névralgique de toute notre vie, ce qui se passe sur la croix. Merci. Vous savez, alors chez nous, amen, ça veut dire on est d'accord. Donc si vous êtes d'accord, vous pouvez dire amen. Hein. Je vous redonne une chance. C'est le centre névralgique de toute votre vie. Merci. Non mais vous êtes des diesels, vous roulez beaucoup à l'essence, mais essence et électrique, mais j'aimais. Ce matin, Jésus dira dans Jean, merci. Comment tu... Redis-moi ton prénom. Jordan, c'est ça, mais avec les jo chez vous là. Jean 19, versets 28 à 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé sur une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Et au verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, est-ce que vous savez ce qu'il dit ? Sur la croix, Jésus, il dit quoi ? Ah non, mais j'entends pas. Il dit, tout est accompli. Il dit, tout est accompli. En baissant la tête, il rendit l'esprit. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter simplement sur trois mots. Tout est accompli. Juste sur ce tout est accompli. Encore une fois, de ce tout est accompli dépend toute notre vie chrétienne. Quel que soit votre parcours, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre couleur, quel que soit votre âge, si vous croyez en Jésus, tout dépend de cette petite phrase. Et ma prière ce matin pour nous, c'est exactement celle que l'apôtre Paul a faite pour l'église d'Éphèse. C'est la suivante, dans Éphésiens 1, verset 15. Voici ce qu'il dit. « C'est pourquoi moi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. » dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Bien-aimés, tout dépend de ce « tout est accompli ». Jésus ne l'a pas dit en français, Jésus ne l'a pas dit en suisse-allemand, encore une fois. Moi je dis, le suisse-allemand c'est une maladie, en ciel il n'y aura plus de maladie. Hein. C'est une maladie de la gorge. Il y a un truc qui se passe au fond, c'est difficile. Hein. Je vous ai dit, elle parle plus français que suisse-allemand en ce moment, c'est très bien. Mais bien-aimé, Jésus dira un seul mot. Ce mot a été traduit par « tout est accompli », mais il dira « tétélestai ». Tétélestai, qui signifie « tout est accompli ». Ce Jésus sur la croix prononcera juste cette simple formule « tout est accompli ». Et j'aimerais que nous puissions ce matin rentrer dans ce « tout est accompli ». Pourquoi tout est accompli ? Comment tout est accompli ? Parce que si vous le comprenez et si nous le comprenons, c'est toute notre vie chrétienne qui change. Quel est mon constat ? Et j'aimerais commencer par ça ce matin. Mon constat, c'est que nous nous préoccupons, nous, bons chrétiens évangéliques occidentaux, nous préoccupons beaucoup des sujets qui sont secondaires. Est-ce que je peux être vrai un petit peu ce matin ? On se préoccupe beaucoup des sujets secondaires. Ils sont importants, mais ils sont secondaires. Si je viens et que je fais une soirée ou un culte sur le miraculeux, l'église est pleine. Si je fais un culte sur le prophétique, l'église est pleine. Si je fais un culte sur la guérison, l'église est pleine. Si je fais un culte sur la bénédiction, l'église est pleine. Tous ces sujets sont bons. On peut vous parler des projets que Dieu a pour vous. Tous ces sujets sont excellents, ils sont très importants. Mais vous savez quoi ? Ils sont secondaires. L'évangile n'est pas à propos de nous. L'évangile, ce n'est pas à propos de simplement ce que Dieu peut faire dans notre corps. Tout à l'heure, on priera pour les malades parce que je crois que Dieu guérit puissamment les malades. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas le principal. Et nous, en chrétiens évangéliques, en Occident particulièrement, mon constat, c'est qu'on ne court plus qu'après ces choses-là. Je le disais hier à tous ceux qui servent, on avait une rencontre à tous ceux qui servent, mais... Et si Dieu ne faisait rien de plus que juste être mort sur la croix pour toi, est-ce que ça te suffirait ? Est-ce suffisant pour toi ? Et si Dieu juste disait, mais moi je suis mort sur la croix, tu ne vivras rien d'autre sur terre, juste au ciel tu sauras que tu es avec moi, est-ce que ça te satisferait ? Est-ce que tu serais épanoui ? Est-ce que tu dirais, mais Seigneur, je te remercie simplement parce que rien que ce que tu as fait sur la croix me suffit à te louer jusque dans l'éternité ? On dit amen, mais bien aimé, moi je suis pasteur aussi, hein, je connais les chrétiens. Souvent, la plupart des motifs des entretiens que j'ai, c'est pour un problème, c'est pour un truc en plus, c'est pour quelque chose. Ce n'est pas pour qu'on creuse ce que Jésus a fait sur la croix. Hein. Je crois que je n'ai jamais eu un rendez-vous pour ça. Hein. Je ne sais pas si c'est les rendez-vous que vous demandez à votre pasteur. Ça serait bien, hein. Il manque de travail en ce moment. Il faut l'occuper. Mais bien aimé, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Je vous pose une question. Et si, est-ce que Jésus a encore de la saveur devant vous, dans vos yeux ? Ou est-ce qu'il faut Jésus plus quelque chose ? Jésus plus la bénédiction ? Jésus plus la guérison ? Jésus plus une belle église ? Jésus plus ceci ? Jésus plus cela ? Ou est-ce que Jésus pour Jésus, ça vous satisfait ? Est-ce que ça vous comble ? Je vais même aller plus loin. Si on pouvait vous promettre l'état parfait du paradis, vous iriez dans un endroit sans maladie, sans grincement de dents, sans souffrance, sans larmes, dans une paix extraordinaire, avec tout cela, mais sans Jésus. Est-ce que vous iriez là-bas ? Oh, répondez pas trop vite. Encore une fois, je connais les chrétiens, j'en suis un. Bien-aimé, Jésus est l'essentiel. Jésus dans la vallée de la mort, c'est meilleur que le paradis. Jésus dans la vallée de Baca, la vallée des larmes, c'est meilleur que la vallée de la paix sans Jésus. Est-ce que c'est le plus profond pour toi ? Parce que si tu veux de ce Jésus-là, il faut que tu reviennes à ce qui est l'essentiel, la croix. Il faut que pendant un temps, on arrête de courir après les soirées sur le miracle, sur la guérison. Qu'on arrête de courir après les soirées sur le prophétique, sur le plan de Dieu pour ta vie. Toutes ces choses, encore une fois, sont bonnes et je les prêche aussi. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Ces choses-là au ciel n'existeront plus. Il n'y aura plus de miracles au ciel. Il n'y aura plus de prophéties au ciel, puisqu'on aura toute la connaissance. Il n'y aura plus de révélation, il n'y aura plus de guérison, puisqu'il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus toutes ces choses. Pourquoi courons-nous après ce qui est secondaire sur terre, alors que nous pouvons déjà suivre l'essentiel que nous vivrons jusque dans l'éternité ? Encore une fois, je crois à la puissance de guérison. Et je vais revenir dessus. Je crois au miracle. Je crois à toutes ces choses. Mais ma crainte, c'est que notre foi chrétienne occidentale a diminué parce que nous regardons à ce qui est secondaire. Elle a diminué. Nous avons diminué ce que signifie la foi, comme si la foi, c'est simplement croire juste à la guérison. Je le disais hier, la foi, c'est croire à la guérison et croire que Dieu peut t'accompagner même dans la maladie. La foi est beaucoup plus forte que juste ce que tu penses dans cette petite case de prospérité où tout va toujours bien. Il y a de la puissance dans la croix. Alléluia! Il y a de la puissance dans la croix. Mon constat, c'est le suivant. Mon constat, c'est que je peux lire des auteurs qui sont... Vous connaissez Charles Finet? Je pense que certains connaissent Finet. Mais quand vous lisez Charles Finet, un homme de Dieu extraordinaire dans les années 1800, mais vous le voyez prêcher sur la croix, vous voyez des élans de repentance qui durent. Il était une fois dans une église, il prêche un message sur la croix. Les gens sont convaincus de péché. Il doit s'arrêter de prêcher tellement les gens pleuraient sur leur péché. Il dit, bon, ils sont là, ils sont avec le Saint-Esprit, ils n'ont pas besoin de moi. Je vais rentrer, je vais me coucher, je vais revenir. Il revient le lendemain, ils sont encore là. Et ils disent, mais nous, on ne veut pas s'arrêter. Ils ont continué jusqu'au lendemain soir. C'est quand la dernière fois que nous avons vécu ça en Occident? C'est quand la dernière fois que tu as vécu ça seul dans ta chambre? C'est quand la dernière fois que quand tu as regardé ta vie, ton péché, tu as ouvert les yeux sur l'état de où tu en es? Souvent, je crains que nous traitons le péché avec légèreté. Il y a beaucoup de compromis, il y a beaucoup de discussions. Nous essayons plutôt d'être à la limite sur la frontière plutôt que d'être loin du péché. Pourquoi ? Parce que nous ne réalisons pas ce que Jésus a accompli sur la croix. Encore cette semaine, j'étais avec un jeune couple qui me disait qu'ils vivaient ensemble, qui me disait qu'ils couchaient ensemble sans être mariés, là où la Bible est très claire. Je leur dis, mais vous n'êtes pas en règle, la Bible est claire. Il me dit, oui, mais c'est comme pour le sabbat, est-ce que l'homme est fait pour le mariage ou le mariage pour l'homme? Je dis, mais pourquoi vous voulez être au minimum de la limite? C'est que vous n'avez pas compris la puissance qu'il y a dans la croix. Dans la croix, tu peux être loin du péché. Loin du péché, c'est loin de chaînes, loin de liens, loin d'un esclavagisme qui va te poursuivre toute ta vie. Il y a de la puissance lorsque tu comprends la croix. C'est un signe pour moi d'être si laxiste avec le péché. C'est un signe qu'il y a un manque de révélation. Il y a un manque de révélation. On se satisfait d'un évangile qui est confortable. Un évangile où on vient un dimanche sur deux, il y a une bonne équipe, et ils chantent bien, il y a des belles lumières, on nous parle d'un Jésus qui est gentil, et puis quand on rentre chez soi, rien ne change. Tu n'es pas touché en fonction de ce que tu regardes chez toi. Tu n'es pas touché en fonction de ce que tu dis chez toi. Tu n'es pas touché dans la manière dont tu réfléchis. Bien-aimés, ne nous étonnons pas qu'il y ait un manque de puissance dans les églises, qu'il y ait un manque de puissance de consécration dans les maisons. Il y a un manque de révélation de ce qu'est la croix. La croix est puissante quand nous la comprenons. La croix est puissante lorsque nous avons cette révélation. Ça va pour vous ? Vous dites, pourquoi je suis venu ce matin hein? Bien-aimé, je crois que quand nous ouvrons les yeux, moi en préparant ce message, mais ça me fait, et même en le relisant à chaque fois, ça me fait tellement de bien de revenir à l'essentiel. Parce qu'un manque de révélation sur la croix amène un manque de consécration et de sanctification face au péché. Mais ça amène autre chose, ça amène un manque de foi dans notre vie. Parce que notre foi dépend de ce que Christ a accompli. Quand tu ne comprends pas que tout est réellement accompli, il y a des choses que tu vas essayer par toi-même et tu ne lui feras pas confiance. Il y a des choses où tu vas dire, oui, tout est accompli, mais Seigneur, il faut quand même que je produise des œuvres pour que tu m'aimes et que tu me bénisses. Mais c'est que tu n'as pas compris que tout est accompli. Jésus n'a pas dit, tout est à moitié accompli. Il n'a pas dit, tout est accompli à 95%. Il a dit, tétélestai, tout est accompli. Tu n'as rien à faire de plus si ce n'est me faire confiance. Tu n'as rien à faire de plus si ce n'est dans me faire confiance. Votre foi dans le tétélestai, si elle est faible, alors vous marcherez dans une foi faible au quotidien. Vous vivrez une vie chrétienne faite de haut et faite de bas. En fonction de l'orateur, en fonction du sujet, vous aurez besoin de petits coups de boost comme ça. Mais votre foi ne dépend pas de qui vient. Votre foi dépend de ce que lui a accompli. À moi, ça me fait du bien de le prêcher. Hein. Je peux me prêcher à moi tout seul ce matin. Bien-aimé, votre foi ne dépend pas de ce qui se passe ici. Si votre foi dépend de ce qui se passe ici, le jour où on ferme les bâtiments, vous ferez comment? Votre foi dépend de vraiment votre révélation de ce qui s'est passé sur la croix, de votre prise de conscience. Il a tout accompli. Pas David, pas Diane, pas Benjamin, pas Duchemol, pas... C'est... Tout est accompli par Christ. Tout est accompli par Christ. Bien-aimé, je crains, et vous allez le voir, que pour beaucoup de chrétiens, ils ont une foi, ce que Christ a accompli est juste assez puissant pour les amener au ciel, et ouf, au moins on est passé. Mais il y a beaucoup plus qui s'est accompli sur la croix. Oui, tu es sauvé pour l'éternité, mais il y a beaucoup plus qui s'est passé sur la croix pour toi, aujourd'hui, 22 novembre 2025. Il y a beaucoup plus. Il y a une puissance beaucoup plus forte. Je rencontre énormément de croyants qui n'ont pas une pleine révélation de qui ils sont en Jésus. Vous savez pourquoi ils n'ont pas une pleine révélation? Et ce matin, il y en a. Ils luttent dans leur identité en Christ. Ils ont du mal. Ils sont avec le vieil homme. Ils viennent un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup, je recommence mes bêtises du passé. Un coup, je vais bien. Ils sont dans cette dualité, cette bataille. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas compris que Jésus les a totalement rachetés sur la croix. Jésus a totalement payé le prix pour eux sur la croix. Ils ont un manque de révélation en Jésus. Ils ont des doutes. Combien de croyants ont des doutes sur le salut? Oui, je crois que je suis sauvé. Presque comme si c'est plus spirituel de ne pas l'affirmer. Oui, je pense. Non, tu penses ou tu sais? Moi, tout à l'heure, je meurs. Me pleurez pas. Hein. Pleurez pour Sylvia, elle va perdre la meilleure moitié. Mais je vous embête. Mais honnêtement, me pleurez pas. Vous savez, des fois, moi j'ai une joie, j'aime imaginer l'éternité au ciel. Vous imaginez ce que c'est le ciel? Le ciel, vous fermez les yeux, boum, vous vous déplacez comme ça. On aura des fonctions, mais ça va pas être du travail pénible. Et puis on sera dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a même pas besoin de lumière, Dieu éclaire tout. Il est tellement rayonnant qu'il n'y a pas besoin de soleil. Mais vous imaginez là-dedans? Et moi, des fois, j'ai parlé avec des jeunes, des amis, je leur dis « Ah, mais qu'est-ce que je me réjouis de partir ?» Ils disent « Mais t'es fou, on n'a pas tout vécu ici. Mais moi, j'ai rien besoin de vivre de plus si je pars demain. Moi, je suis content, je ne suis jamais allé sur l'Himalaya sur Terre, j'irai dans l'Himalaya céleste. La Terre, la beauté de la Terre n'est qu'un brouillon par rapport à ce que Dieu a créé dans le ciel. C'est ce que vous voyez d'extraordinaire ici. Dites-vous que c'est une ébauche. Ça vous donne juste, ça vous ouvre une minuscule fenêtre de la réalité du ciel. Mais moi, j'ai qu'une envie, c'est de partir. Et si je pars tout à l'heure, mais Dieu soit béni. Oui, mais pour tes enfants, mais mes enfants, si Dieu me dit tu n'as plus besoin d'être avec eux, il va prendre soin d'eux. Elle est où votre foi? Elle est où votre espérance? Où est votre conscience qu'il y a une réalité spirituelle qui est juste à côté? Elle n'est pas à des centaines de kilomètres, elle est juste à côté. Un souffle qui disparaît et tu y es. Je crois que c'est Spurgeon qui disait il y a un seul étage entre les morts et les vivants. Vous avez juste 4 marches à monter et c'est fini, vous y êtes. Mais bien aimé, mais si, c'est seulement si on comprend ce qu'il a fait sur la croix qu'il y a cette joie. Moi, j'en parle avec joie, les gens en parlent avec tristesse. Je ne comprends pas. C'est vous qui êtes bizarre, ce n'est pas moi. Je ne comprends pas. C'est le bonheur ultime, éternel. Il y a une puissance, mais je vois des gens qui doutent de leur salut. Je vois des gens qui sont facilement accusés par l'ennemi. Ah non, mais tu vois, tu es encore pécheur. Ah non, mais tu vois, il y a encore ceci. Mais tu vois, il y a encore cela. Bien-aimé, quel est l'enjeu? L'enjeu est de vivre une vie chrétienne faible. L'enjeu est de vivre une vie chrétienne fade, une vie qui ne reflète pas la puissance déployée pour mon salut. Une vie qui est faite de haut et de bas, une vie inconstante parce qu'elle ne s'ancre pas pleinement dans ce que Christ a fait. Une vie de disciple qui ne comprend pas que les œuvres, c'est simplement un privilège, ce n'est pas pour obtenir quelque chose. Si je suis là avec vous ce matin, que je ne suis pas avec mes enfants ou chez moi à me chauffer avec mon poêle à bois, c'est parce que c'est mon privilège. Qui me dira, oh, bah, dis donc, mais c'est mon privilège. Je ne le fais pas pour que Dieu me bénisse. J'ai déjà tout, je suis au ciel pour l'éternité. J'ai une femme merveilleuse, j'ai des enfants merveilleux. Dieu a tellement fait pour moi. Pourquoi je viendrais faire des choses pour qu'il me donne en plus? Bien-aimé, le danger, c'est une vie chrétienne faible. Le danger, c'est que mon entourage ne voit pas la lumière en moi. Parce que si vous ne comprenez pas que tout est accompli sur la croix pour toi, alors vous ne brillerez pas comme Christ a brillé pour toi sur la croix. C'est en ayant cette... Et je vous parle d'une révélation, je ne vous parle pas d'une connaissance dans la tête. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, il faut qu'ils disent qu'ils sont chrétiens, parce que sinon les collègues, ils ne le penseraient jamais. Il y en a plein. Ah, je suis chrétien. Oh, bon, alors ça, j'aurais... Ah, j'aurais pas parié dessus. Hein. Non, mais... Ah, ça, j'aurais pas parié dessus. Ils doivent le mentionner. Vous savez que normalement, on n'a même pas besoin de le mentionner. Hein. C'est censé se voir. C'est censé se voir dans l'attitude. C'est censé se voir dans le comportement. Dernièrement, je l'ai dit hier soir à table avec ceux qui étaient avec moi. Alors depuis cet été, moi j'ai une petite passion depuis cet été, je suis diplômé parachutiste. Donc je saute à 4000 mètres, à 200 km à l'heure, comme ça c'est chouette. Si vous voulez essayer d'être plus près de Jésus, ça marche, hein, ça marche. Soit vous y êtes pendant un temps, soit vous y êtes pour l'éternité, mais vous êtes plus près de Jésus. Mais l'autre jour, je suis là-bas et ça me fait du bien. Vous savez pourquoi ? Nous, pasteurs, en tout cas, moi, je suis à plein temps depuis bientôt 10 ans. Mais je suis tout le temps avec des chrétiens. Tout le temps. Donc, ça me fait du bien d'être avec des gens qui ne le connaissent pas encore. Parce que ça me permet d'être en contact avec ces gens-là, découvrir leur vie, ça m'intéresse, etc. Et puis, il y avait un homme qui était là ce jour-là. Et le matin, il vient, il commence à me parler. Je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève, je ne l'avais jamais vu. Et il commence à me parler, il commence à me raconter sa vie. Et toute la journée, j'étais toute la journée, et il me parle de difficultés, il me parle de souffrances. Et il est très, c'est très intime ce qu'il me partage. Et à la fin de la journée, j'ai que fait l'écouter. Vous savez, souvent, les chrétiens, ils n'ont pas envie d'écouter, ils ont juste envie de parler. J'ai que fait l'écouter. Des fois, un chrétien, c'est quelqu'un qui se tait et qui écoute. Et à la fin de la journée, il me dit, mais tu fais quoi, toi, dans la vie, d'ailleurs ? Je lui dis, mais moi, je suis pasteur. Et il me dit, ah ! Écoutez ce qu'il dit. C'est ça, ce que je voyais en toi qui me poussait à me confier. Et je lui ai dit, c'est pas le fait que je sois pasteur, hein. J'en connais des pasteurs, tu n'aurais pas envie de te confier. Je lui ai dit, c'est celui qui vit en moi que tu as vu. Mais est-ce que ça se voit ? Ou est-ce qu'il faut que tu le précises partout où tu es ? Est-ce qu'il y a une différence ? Parce que quand tu comprends ce qui s'est passé sur la croix, il y a une différence. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une puissance qui est là. J'aimerais simplement dire qu'il y a une plénitude en Christ. Si Jésus peut dire « tout est accompli », c'est parce que tout vient de lui. Tout est tiré de lui. Pourquoi Jésus dit tout est accompli ? C'est parce qu'il y a cette plénitude et le commencement de la plénitude de Christ, c'est le commencement de ce tétélestai. C'est le démarrage. Jésus ne vient pas juste sur la croix comme un simple homme. C'est tout ce qu'il représente qui vient avec lui sur la croix. Quand vous avez eu l'assassinat de François Ferdinand en 1914, ce n'est pas juste la mort d'un simple homme qui a déclenché la Première Guerre mondiale. C'est tout ce qui représentait le royaume d'Autriche, les alliances, tout ce qui était de la conspiration autour. En tuant cet homme, vous avez attaqué tout un royaume, d'où le fait de toute la guerre mondiale qui est arrivée. Bien-aimé, quand Jésus est venu sur la croix, il n'est pas juste venu en qualité d'un homme lambda. Il était là, le Fils de Dieu, celui qui a été fait chair, celui qui était là dès la création et qui sera là jusqu'à la fin. Il était au commencement et il est à la fin. Il est alpha et oméga. Quand il vient sur la croix, il vient avec toute la plénitude de qui il est. Il vient avec toute la puissance de qui il est. Il ne vient pas comme un simple homme. C'est justement parce qu'il vient avec tout ça qu'il peut dire « tétélestai ». C'est justement parce qu'il vient avec toute cette puissance qu'il peut dire « tout est accompli ». Si vous y aviez été, jamais vous auriez pu dire ça. Si moi j'y avais été en bon Alsacien, on est plus sanctifié que les Suisses, mais en bon Alsacien, mais ça n'aurait pas suffi. Ce n'est pas juste un homme innocent qui est mort, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui est mort et ressuscité pour nous. Est-ce que vous comprenez que ce « tout est accompli », il a une puissance ? Il a une puissance. Écoutez ce qu'il nous est dit de Christ. Colossiens 1, ce matin je veux lire des versets parce que je crois que la Bible est puissante en elle-même. Colossiens 1, verset 15. Il et on parle de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Bien-aimés, c'était le plan parfait du Père. Il ne fallait pas juste un homme innocent, il fallait celui qui était là en tout et pour tout et partout. C'est pour cela que le tout est accompli et puissant. Jean 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, rien. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres n'en ont pas reçu. » On parle de Jésus, on parle de celui qui était là au commencement. Avant que cette terre ne soit formée, lui était là. Jésus a été à la conception de chaque fibre de ton être. Chaque parcelle, chaque cheveu, chaque couleur de cheveux ou chaque plus de cheveux du tout, chaque dent, chaque molécule de ton être, Jésus était là à la conception. Chaque fibre de la création sur cette terre, Jésus était là. Chaque partie de toute la création, et j'aimais aller plus loin, chaque partie du monde spirituel, invisible, le texte vient de le dire, Jésus était là. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Rien, rien. Comprends que dans toute la dimension du plus petit au plus grand dans le cosmos, tout a été fait parce que Jésus était là. Quand Jésus vient sur la croix, il vient avec cette réalité-là. Tout a été fait par lui. Mais j'aimais vous dire également que Christ était également en toutes choses. Ça n'a pas juste été créé par lui. Il est dans toutes ces choses-là. Quand un sacrificateur, un prêtre, le grand prêtre venait, rentrait dans la présence de Dieu dans l'ancienne alliance, il venait et il avait tous les noms des tribus qui étaient attachés autour de lui. Et il venait, pourquoi ? Parce que dans sa qualité de sacrificateur, de grand prêtre, il rentrait dans la présence de Dieu avec tous les noms des tribus. Et en venant avec tous ces noms, il représentait toutes ces tribus. Il représentait chaque personne de ces tribus, du plus petit au plus grand. Il ne venait pas juste lui, mais il venait dans la représentation. Finalement, en Christ bien-aimé, il y a cette dimension. Christ est en toute chose. Je ne vous dis pas que la création, c'est Christ. Je ne vous dis pas que vous êtes Christ. Je vous dis juste que parce que vous êtes tiré de lui, il y a une partie de lui en vous. Moi, j'ai deux enfants. J'ai Adam et Elliot. Il y a une partie de moi qui les a créés. Ils ne sont pas moi. Bien évidemment, on ne va pas tomber dans des trucs, ils sont bizarres ces gens. Ils ne sont pas moi. Mais finalement, parce qu'ils sont tirés de moi, il y a une partie de moi qui est en eux. Vous comprenez ? J'aimerais vous dire, il y a une partie de Christ dans toute la création, dans tout ce que Christ a créé, dans tout ce que Dieu a fait. Quand il vient sur la croix, il entraîne tout ça avec lui. Quand il dit tout est accompli, il parle de toutes ces choses-là. Parce qu'il y a une puissance quand lui, Jésus, arrive. C'est parce que tout est en lui que tout peut être réconcilié par lui. Et c'est là la grande clé. C'est parce que tout est issu de Christ qu'alors tout peut être réconcilié par Christ. Quand Jésus dit « tout est accompli », il est en train de dire « tout ce qui est issu de moi peut être réconcilié par l'œuvre de la croix ». Tout, tout, tout est accompli. Regardez, par exemple, et j'aimerais rester quelques instants sur ça, « tétélestai », tout est accompli. Colossiens 1, verset 20, ça va, vous êtes avec moi ce matin ? Tétélestai, Colossiens 1, verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Autrement dit, toute la création est réconciliée avec Christ. Toute la création, quand l'homme a péché, même la création a été contaminée par le péché. Mais par l'œuvre de la croix, c'est toute la création qui est réconciliée. Tétélestai pour la création, tétélestai bien-aimé pour les relations. Colossiens 3, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres en vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni suisse, ni alsacien, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais en Christ êtes en tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et l'un, si l'un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Jésus, par l'œuvre de la croix, a dit tout est accompli dans la création, mais il a dit tout est accompli dans les relations. Bien-aimé, l'humain se déchire depuis la chute d'Adam et Ève. Depuis la chute d'Adam et Ève, ce sont deux frères qui se sont déchirés, l'un assassinera l'autre. Nous voyons tant de racisme, nous voyons tant de différences, tant de différenciations. J'aimais vous dire qu'au ciel, il n'y aura pas de couleurs, on ne sera pas parqué en fonction des couleurs. En lui, tout a été réconcilié dans les relations. En Christ, tu dis, mais moi, on m'a fait trop de mal. Il te dit, tout a été accompli pour que tu puisses te réconcilier. Je vous redonne une chance. Ah non, mais moi, je suis trop blessé. Tu crois à ce qu'il a dit ou tu n'y crois pas? Tu y crois vraiment ou tu n'y crois pas? Il t'a donné la possibilité de pardonner. Il t'a donné la possibilité de te réconcilier. Les guerres fraternelles dans les églises, ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste. Nous sommes appelés à vivre une dimension de relation qui est si extraordinaire qu'à cause de l'amour que nous avons les uns pour les autres, les gens qui ne connaissent pas Jésus verront en disant « ils sont comme Jésus ». Mais est-ce que vous avez ce niveau de relation dans l'église Passion ? Ça ne suffit pas de juste être ensemble le dimanche. Hein. Quand on se critique, quand on parle dans le dos, on peut lever les mains ensemble dans la même salle le dimanche matin, mais ça ne suffit pas. Bien-aimés, tout est accompli pour les relations. Alléluia! Il n'y a plus de différence, il n'y a plus de racisme. Tétélestai pour face au péché. 1 Pierre 2, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. On aime la deuxième partie. Ah, il est mort pour nous, donc nous pouvons prier pour la guérison. J'aimerais vous dire, le plus important, c'est la question du péché. Le plus important, c'est la question du péché. Il a payé le prix pour que nous soyons libres du péché. Libres, pas juste à la frontière, loin du péché. Parce que plus tu es proche de Christ, plus tu es loin du péché. Est-ce que je peux vous donner une image ce matin? Est-ce que, David, tu peux venir? Jonathan, viens s'il te plaît. Viens, je vais vous donner une petite image. Quelque chose qui m'était venu. Écoute, David, tu es le pasteur, donc tu vas jouer le rôle de Dieu. Hein? T'as de la chance, mais tu peux remercier le Seigneur, parce que regarde ton fils, Jonathan, tu vas jouer le rôle du péché, hein, on a besoin, voilà, hein, tu peux t'éloigner un petit peu. Ah, non, venez d'abord ensemble. Regardez, beaucoup de gens pensent que être chrétien, c'est, ah, mais j'aime Dieu, tu peux mettre ta main autour de moi, mais le péché n'est pas si loin de nous. Le péché est là, et presque on a l'impression que certains chrétiens, ils sont, ah, le dimanche, ils sont, ah, oh Dieu. Merci. Et puis après, ils sont... Ah, le péché... Non, j'ai pas envie, mais... Oui, bon, calme-toi. Je suis marié, s'il te plaît. Hein. Je suis marié. Hein. Ton épouse, elle est là-bas. Hein. Je te trompe pas, s'il te plaît. Hein. Mais un petit peu... On a l'impression qu'on peut presque être un petit trio. À trois, un petit peu Dieu, un petit peu le péché, un petit peu Dieu, un petit peu le péché. C'est pas comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. La Bible nous dit que Dieu est saint. Dieu est pur, Dieu est parfait. En lui, il n'y a aucune once de trace, de résidu, de péché et de saleté. Autrement dit, Dieu est à l'extrême opposé du péché. Le péché n'est pas du tout proche de Dieu. T'as beau te sentir proche du péché et proche de Dieu, le péché est à l'extrême opposé de Dieu. Et où se trouve la plupart des chrétiens? Je vais vous montrer où ils se trouvent. Ils se trouvent là. La plupart des chrétiens se trouvent ici. Ils ne se trouvent pas assez proches de Dieu pour se sentir bien et ils ne se trouvent pas assez proches du péché pour se sentir sale. La plupart des chrétiens sont ici. Et ils ne sont pas joués un peu à Dieu et un peu avec le péché. Ils sont entre les deux. Ils sont à essayer de faire un grand écart. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire du grand écart à un moment donné, ça fait mal. Hein. Bien-aimé, il y en a certains, je leur ai dit, tu vas aller dans le péché, mais vas-y à fond alors. Pourquoi tu essayes de te donner l'illusion de marcher avec Jésus? Tu ne marches pas avec Jésus. Tu es entre les deux. Et comment les chrétiens essayent de se rapprocher de Jésus? Ils sont là et disent, ah, il faut que je m'éloigne du péché. Plus je m'éloigne du péché, plus je vais pouvoir me rapprocher de Jésus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent l'emphase sur le péché. Ils disent, il faut que j'arrête ça, il faut que je coupe ceci. Mais est-ce que vous allez à Bienne en marche arrière? Est-ce que vous allez dans une destination en marche arrière? Quand vous voulez aller à un point B ou à un point Z, vous regardez à ce point. Comment tu te rapproches de Dieu? En regardant à la croix, en regardant à Dieu. Et plus tu te rapproches de Dieu, plus tu loues Dieu, plus tu aimes Dieu, plus tu as des révélations. Et plus tu as ces révélations, plus tu te rapproches de lui. Mais de fait, plus tu es proche de Christ, plus tu es loin du péché. Et à la fin, vous êtes là, mais tu te dis, mais il est tellement loin. Mais pas parce que tu as essayé de t'éloigner du péché, simplement parce que tu t'es rapproché de Jésus. La sanctification, ce n'est pas s'éloigner du péché. La sanctification, c'est se rapprocher de Christ. Et c'est parce qu'il a payé le prix sur la croix, parce que lui-même a porté nos péchés en son corps, que tu peux te rapprocher de lui. Que tu peux faire ses pas, que tu peux véritablement le louer, que tu peux véritablement avoir cette relation intime avec lui. C'est parce qu'il a payé le prix. Pour quelle raison Jésus est venu sur la croix? Pour quelle raison? C'est une question. Qu'est-ce qui a motivé Jésus à venir sur la croix? Allez-y, on est dans un pays libre. Vas-y, mon frère. Ah, j'aime cette réponse. C'est quoi? La plupart du temps, on me dit pour qu'on soit libre du péché. Jésus n'est pas venu sur la croix pour qu'on soit libre du péché. Jésus est venu sur la croix pour réconcilier avec le Père. Et pour nous réconcilier avec le Père, il a dû nous libérer du péché. Mais si tu es seulement libre du péché et que tu te rapproches jamais de Dieu, ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien, tu retomberas. Tu repartiras, tu auras des soucis. Et beaucoup de chrétiens, ils sont là. Un coup, ça va le dimanche. Heureusement, David, il a bien prêché. Et puis le lundi, à nouveau, c'est difficile parce que la série que je regarde, elle me fait mal dans l'esprit. Et de temps en temps, je me rapproche quand même. Et là, je reviens, je pleure. Et puis après, je me rapproche. Mais c'est ça la vie chrétienne qu'on veut? Est-ce que vous croyez que c'est vraiment ça qui porte du fruit? Est-ce que vous croyez qu'on honore vraiment Dieu à cause du prix qu'il a payé sur la croix en vivant une vie si faible? Il y a une puissance, bien-aimée. Et j'aimerais, ce matin, je vous parle avec mes tribes, j'aimerais que nous puissions, chrétiens occidentaux, vivre cette dimension de consécration. Merci les frères, vous pouvez retourner à votre place. Merci Dieu, et je ne vais pas remercier le péché parce que c'est particulier. Alléluia. Par contre, il nous est dit la chose suivante. En prenant nos péchés, Christ a également permis que la puissance de guérison vienne. Oui, lui, par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Bien sûr que ce texte est important. Tout à l'heure, nous prierons pour les malades. Et oui, je crois que les malades sont guéris parce que Jésus a payé un prix pour que nous puissions être guéris. Mais il n'est pas en train de dire, lui, par les meurtrissures duquel nous sommes guéris automatiquement, immédiatement, systématiquement. Non, il y a une puissance de guérison qui est possible, mais Dieu reste souverain. Nous ne courons pas après la guérison, nous courons après lui. Nous ne courons pas après les signes. Les signes, c'est qu'une indication. Mais il y a une puissance de guérison. Il y a une possibilité. Tu as le droit tout à l'heure de venir avec foi et de croire que si tu t'approches de ce Jésus à la croix, tu peux recevoir le surnaturel. Si je suis devant vous, c'est parce qu'il y a des années de cela, ma grand-mère qui devait mourir à l'âge de 29 ans, quelqu'un a prié pour elle et elle vit encore aujourd'hui. Si je suis devant vous, c'est parce que moi-même qui étais malade, avec des hallucinations suicidaires profondes, un jour Dieu m'a touché, m'a guéri. Je me rappelle un jour, c'était plus par rapport à Sylvia cette histoire. Sylvia était asthmatique très profonde depuis très jeune. Hein. depuis l'âge de 9 ans, mais vraiment très, très asthmatique. Je me rappelle, quand on se connaît depuis qu'on a 15 ans, je me rappelle des fois juste, elle était couchée, le poids de son corps déclenchait des crises d'asthme. Elle montait 3 marches, elle avait des crises d'asthme. Et je me rappelle un jour, on arrive au culte, on arrive un petit peu en retard ce jour-là à l'église, et quand on arrive, on s'installe dans les rangs, et là, il y a, pour ceux qui ne sont pas croyants, on croit que Dieu peut parler vraiment. Si Dieu est vivant, ben, il peut s'adresser à quelqu'un. Comme on l'a vu tout à l'heure, il peut s'adresser à quelqu'un directement. Et là, il y a un homme qui prend le micro et il dit, il y a une jeune femme qui est là. Tu es asthmatique profonde et tu souffres de cela. Maintenant, Jésus te guérit. Je ne peux pas vous expliquer, mais il avait cette conviction. Ça, c'est pour Sylvia. On était beaucoup de monde. Et ça, c'était pour Sylvia. Elle, plus tard, elle me dira, je savais que c'était pour moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rapproché d'elle pour écouter sa respiration. Et à ce moment-là, j'ai entendu un... Je l'ai entendu respirer comme elle n'a jamais respiré. Elle est rentrée chez elle. Elle est rentrée. Elle a dit, écoute, je vais partir courir sans ma ventoline parce que s'il m'a guéri, je veux tester. Depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais eu aucune crise d'angoisse. Aucune crise d'asthme. Bien aimé, il y a un Jésus qui guérit. Moi, je suis le témoignage vivant. Il y a un Jésus qui guérit. Je prie pour mes enfants. Mes enfants peuvent aussi être guéris. Bien sûr que je leur donne aussi des médicaments. Bien sûr que quand ils en ont besoin aussi. Mais quand tu as Jésus, tu as 2 possibilités. Dieu peut te guérir par les médicaments et les médecins, et je bénis Dieu pour cela. Mais Dieu peut te guérir autrement s'il le souhaite. Tu as le droit de t'approcher avec foi. Pourquoi ? Parce qu'il dit « tout est accompli ». Regardez, tétélestai face au péché, mais tétélestai face au passé. 2 Corinthiens 5, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons pas selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Autrement dit, Jésus dit... Tout est accompli face à ton passé. Mais combien de chrétiens vivent leur vie chrétienne en essayant de régler le passé ? Ah, moi, tu sais pas, il y a des liens dans ma famille, il y a des liens générationnels, je le disais à David, mais tous les chrétiens, quand on remonte au moins à 6 générations, vous avez tous eu un voyant ou une voyante dans la famille. Hein. Tous. Quand on remonte à 6 générations, ça fait du monde. Hein. Bien-aimé, non, en Christ, le passé est réglé. En Christ, le passé est réglé. Je peux vous dire quelque chose qui va vous embêter ? Et David, il va gérer ça en tant que pasteur plus tard. Je ne crois pas à l'enseignement des liens générationnels. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la plupart des gens, et j'en ai suivi beaucoup, hein, la plupart des gens qui sont là-dedans, ils ont un poids de culpabilité qui ne s'enlève jamais. Et ils sont dans une inquiétude permanente. Et s'il y a quelque chose que je n'ai jamais trouvé encore, Dieu ne vous a jamais demandé d'être des détectives du spirituel et de vos ancêtres. On n'est pas des généalogistes. On est des croyants qui marchons en avant. Ah non, mais moi, tu sais pas, dans ma vie, bien-aimé, j'en ai vu des gens. J'en ai suivi. Encore, la semaine prochaine, j'interviewe une ancienne voyante. Je l'ai. Mais quand elle a rencontré Jésus, c'était terminé. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que sinon, ça signifierait que si nous avons encore des choses à faire face au passé, ça signifierait que alors le tout est accompli n'est pas totalement complet. Tout est accompli. Tout est accompli. Et je peux vous garantir que si ces personnes qui sont là, et sûrement, je sais que je titille certains, sûrement que certains vous êtes là-dedans, je peux vous garantir que si vous mettez votre foi dans ce tout est accompli, vos problèmes se résoudront. Parce que vous donnez un accès à l'ennemi à cause de votre inquiétude et votre incrédulité. Ça nourrit une incrédulité. Ah, je peux vous titiller un peu plus ? Ah, mais toi, t'es français, tu connais pas ces choses-là. Combien de fois j'ai entendu ça ? Mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de magie en Alsace ? Je pense que vous ne connaissez pas l'Alsace. Hein. Juste à côté de chez moi, on a une tour, la tour de la sorcière. C'est une tour où il y a eu tellement d'occultisme, tellement de choses sales. Encore aujourd'hui, maintenant, il y a des choses... Hey, arrêtez. Hein. Pensez pas que le spirituel, c'est que sur un continent. Satan est partout. Satan est partout, bien-aimé. Vous connaissez ici le secret, vous connaissez plein de choses. Mais est-ce que vous avez foi dans ce qu'il a fait ou est-ce que vous n'êtes pas tout à fait sûr ? Est-ce que vraiment il y a une puissance ou est-ce qu'il n'y a pas de puissance ? nourrissez votre foi, nourrissez pas votre incrédulité. Nourrissez pas simplement une recherche désespérée. Vous savez aussi qu'est-ce qui est très mauvais avec ça ? C'est que ça vous rend dépendant d'hommes. Il faut qu'un homme ait une révélation, il faut que telle personne ait une révélation, il faut que... vous êtes dépendant de Christ, vous n'êtes pas dépendant de quelqu'un d'autre. Soyez jamais dépendant de quelqu'un. Il a beau être sur l'estrade, ou bien parler, ou bien faire ce qu'il veut. Soyez jamais dépendant d'un homme. Est-ce que vous avez foi dans ce « tout est accompli » ? Quand il dit « tout est accompli », c'est « tout est accompli ». Et si vous me dites « j'y crois pour tout, mais pas pour ça », mais vous ne croyez pas en tout alors ? Il le dit, tout est accompli face au passé. Nous sommes de nouvelles créatures. Il y a beau avoir eu des malédictions sur 10, 15, 20 générations dans ta famille, à partir de toi, si tu as Jésus, tu as une nouvelle identité, c'est fini. C'est fini. Vous savez que moi, je vous prêche de choses que je vis. Sylvia, elle a une partie de sa famille qui n'est pas chrétienne du tout. Il n'y a pas un seul couple dans sa famille qui n'est pas divorcé. Sur beaucoup de générations, il n'y a pas un seul couple. Il dit, mais attention, il y a une... À un moment donné, quand elle était un peu plus jeune, elle me dit, mais il faut quand même peut-être qu'on prie. Mais on a prié pour rien du tout. On est en Jésus. Et il y a une malédiction chez eux. Mais en Jésus, mais pourquoi on s'inquiéterait de ça ? Il l'a déjà accompli. Il a déjà payé le prix. Bien-aimé, ça sera jamais quelque chose qui va nous toucher. On doit se battre pour notre mariage, on doit l'entretenir, on doit entretenir la flamme, mais il n'y a pas de malédiction qui nous atteint. Mais est-ce que vous le croyez ou pas ? C'est ça être un homme ou une femme de foi. Est-ce que vous le croyez ou non ? Tétélestai, face au passé, ta vie est pleinement en lui. Ton identité, ton présent et ton futur seront en Christ. Alléluia ! Ils seront en Christ, tétélestai dans le monde spirituel, celui-ci je l'aime beaucoup, Éphésiens 1, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds, il n'y a aucun démon qui sera plus grand que ce que Jésus a accompli sur la croix. Je crois au monde spirituel. Il n'y a aucun démon qui sera plus grand. Toute domination, toute autorité, il a tout mis sous ses pieds. Est-ce que tu y crois ou est-ce que tu n'y crois pas ? Si tu y crois, pourquoi doutes-tu ? Si tu y crois, pourquoi as-tu peur quand tu vas dans un endroit ? Il vit en toi. Ce tout est accompli est en toi. Vous croyez que quand je chasse un démon, j'ai peur qu'il rentre en moi ? Mais c'est lui qui a peur. C'est pas à cause de moi, parce que ce qui vit en moi, c'est ce tout est accompli. Celui qui vit en moi, il a tout mis sous ses pieds. Le démon le voit, mais il crie et il part. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ma force, mais je dépends de ce tout est accompli. Vous qui étiez morts, Colossiens 2, par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce par nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Est-ce que vous savez ce que c'était le triomphe de ce temps-là ? Le triomphe, c'était, et on le faisait du temps des Romains, c'était le vainqueur, le Romain qui prenait l'ennemi, qui l'attachait à son char et qui circulait dans la ville, autour de la ville, avec l'adversaire humilié derrière lui, présenté devant tout le monde. Il nous est dit que Christ a triomphé de Satan par la croix. Autrement dit, l'ennemi est attaché derrière le char et tu le vois quoi ? Tu le vois ramper face à la puissance de Jésus. Et c'est ce Jésus-là qui vit en toi. C'est ce Jésus-là qui te parle, c'est ce Jésus-là qui te dit « Tout est accompli, aujourd'hui nous n'avons plus à avoir peur ». Aujourd'hui, face au monde spirituel, on ne vient pas avec prétention, mais nous n'avons plus à avoir peur. Et enfin, simplement, face à Dieu, tétélestai, Jésus nous dit que c'est avec assurance que nous pouvons nous approcher du trône de la gloire. Tu n'as pas besoin d'avoir la tête baissée, c'est avec assurance, c'est avec assurance. Il y a quelque temps, j'étais J'étais orateur dans un camp et ça remonte quand même, ça fait 2 ans quand même, il y a quelque temps. Mais Sylvia s'occupait du petit, du dernier, à Elliot, qui était un jeune nourrisson, quelques semaines ou quelques mois. Et il était là avec sa maman et j'étais à des centaines de kilomètres. Et à un moment donné, vous savez, quand on sert Dieu, il y a un enjeu qui est spirituel. Il y a un enjeu. On ne voit pas tout, mais le monde spirituel existe. Et à un moment donné, le petit tombe malade. Bah, ça peut arriver chez le nourrisson. Il tombe malade. Ok, bon, elle soigne, elle s'occupe de lui, etc. Et la fièvre ne diminue pas, elle commence à monter. Et elle monte, 39, 40, et il passe la barre des 40. C'était un nourrisson, un petit, hein, c'est dangereux. Et il passe la barre des 40, elle va aux urgences. Les médecins lui prescrivent des médicaments. La température ne diminue pas. Un jour, 2 jours. Et moi, j'étais à des centaines de kilomètres à m'occuper d'autres gens. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, maintenant, je sais qu'il y a un enjeu aussi qui est là. Ce midi, je ne mangerai pas, je vais partir, je le dis à l'équipe, je me mets dans ma chambre et je vais simplement prier pour cette situation. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Et quand j'ai fermé la porte, les amis, je ne suis plus dans une chambre, je suis devant le trône de la gloire. C'est pas que je le voyais avec mes yeux, mais c'est ce que je sais parce que c'est ce qu'il me dit. On peut s'approcher avec confiance. Et quand j'ai fermé cette porte, je ne suis pas venu avec des grands airs, mais je ne suis pas venu en suppliant non plus. J'ai dit, Seigneur, je ne quitterai pas cette salle tant que tu ne m'as pas dit que tu touches mon fils. Parce que tu m'as promis que tu prends soin de lui. Et parce que tu m'as dit, si tu me sers, tes enfants ne manqueront jamais de rien. Donc, j'ai fermé cette porte et j'ai prié jusqu'à un moment donné où Dieu m'a dit, c'est bon, j'agis. Vous pouvez demander à Sylvia, je l'ai appelée. J'ai dit, le Seigneur m'a dit que c'est bon. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à manger, à boire. Et en 2 jours, 3 jours, il n'y avait plus de fièvre, c'était terminé. Mais on peut s'approcher avec confiance. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, tout est accompli. C'est parce qu'il l'a dit, bien-aimé. Est-ce que tu y crois ou est-ce que tu n'y crois pas ? J'aimais simplement conclure, si je peux demander à l'équipe de me rejoindre, s'il vous plaît. Tout à l'heure, nous allons prier pour les malades. Vous savez, tétélestai, il a une conjugaison, ce mot qui est particulière. Le mot tétélestai est conjugué dans un temps qui n'existe pas dans notre langue. Tétélestai, il est au temps parfait. Et qu'est-ce que c'est le temps parfait ? Le temps parfait signifie que la chose a été faite dans le passé, mais qu'elle agit encore aujourd'hui. Quand Jésus dit « tout est accompli », il dit « j'ai tout accompli », mais c'est continuel, c'est actif, ça continue d'agir. Tétélestai, c'était pas un mot que Jésus a inventé comme ça, c'était un mot qui était utilisé dans différents contextes. Tétélestai, du temps de Christ, les artistes utilisaient ce mot. Quand un peintre ou un sculpteur ne voyait plus rien à ajouter à son œuvre, il disait « tétélestai ». Quand un serviteur avait totalement terminé le travail demandé par son maître, il disait « tétélestai ». Quand un prêtre examinait l'animal pour le sacrifice, il voyait qu'il était parfait, sans défaut, bon à sacrifier, il disait « tétélestai ». Quand un commerçant contractait une dette et que cette dette était enfin remboursée, l'autre en face disait « tétélestai ». Quand un prisonnier, un citoyen romain était condamné, on mettait sur sa cellule, on affichait tout ce qu'il avait fait aux yeux de tout le monde, pour que tout le monde sache ce qu'il avait fait. Et lorsqu'il avait purgé sa peine, ce texte-là était repris par le juge et le juge écrivait en gros « tétélestai ». Bien-aimé, il nous est dit dans Romains 8, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ne surpasse ce tétélestai. Rien. Ce matin, réalisez-le, quelle que soit votre vie. Que vous le connaissiez bien ou que vous ne le connaissiez pas personnellement, ce tétélestai, tout est accompli et pour vous ce matin. Est-ce que je pourrais vous demander de fermer vos yeux quelques instants ? Simplement alors que nous sommes là, pourquoi je vous demande simplement de fermer les yeux ? Parce que je crains que lorsque, dans certains moments, nous ouvrons les yeux, nous regardons à ce qui se passe à l'avant, alors que ce qu'il faut, c'est que tu regardes à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ce matin, mon désir, c'était deux choses. C'était pour vous, croyants, de pouvoir raviver ce qui est l'essentiel. Notre vie se fonde sur ce « tout est accompli ». Nous marchons dans ce « tout est accompli ». Nous vivons par ce « tout est accompli ». Et nous agissons en fonction de ce « tout est accompli ». Ce matin, j'aspire à ce qu'il y ait beaucoup plus de croyants embrasés, enflammés, pas juste culturellement chrétiens, et qui sont conscients que l'essentiel est dans le tout est accompli et pas dans le reste. Ce matin, mon désir, c'est de raviver ta foi, parce que ta foi dépend de ce que tu crois dans ce texte-là. Je sais qu'il y a des points où j'ai défié certains, mais j'aimerais vous dire que ce que je prêche, je le crois parce que je le vis. Et si tu mets ce tout est accompli en pratique, tu verras du fruit. Mais mon désir ce matin, c'était aussi de m'adresser à ceux qui peut-être ne connaissent pas personnellement ce Jésus. Ils ont eu une éducation religieuse, vous avez entendu parler, vous connaissez peut-être de loin, mais vous n'avez pas du tout la relation que j'ai décrite, que j'ai. Je ne l'ai pas parce que je suis meilleur, je l'ai parce que je crois dans ce tout est accompli. Je le crois pour moi. Vous savez, si je n'avais pas Christ, et je le dis en étant très honnête, pas pour essayer de faire un effet, je suis convaincu que si je n'avais pas Jésus dans ma vie, je serais sûrement l'un des pires des hommes sur cette terre. Il peut y avoir tellement d'égoïsme, tellement d'égocentrisme, il peut y avoir tant de violence à l'intérieur de moi. Je serais un mari horrible, je serais un père horrible, je serais un fils horrible. Oh, je ne dis pas que je suis parfait. Je dis juste que parce que j'ai confié ma vie dans celui qui a dit « Pour toi, j'ai tout accompli. Je t'ai réconcilié avec le Père. Je te donne une vie éternelle. Je te libère du péché. Je règle ton passé. J'agis pour toi au quotidien. » Je peux vous assurer que parce que je confie ma vie à cet homme-là, tout change. Tout change. Parce que lorsque j'atteins ma limite, je peux dire « Seigneur, c'est plus ma vie, c'est toi qui conduis. Ça ne m'appartient plus. » Ce matin, mon désir, et j'aimerais m'adresser à vous qui ne connaissez pas Jésus. Il y a peut-être des personnes, simplement vous avez quitté Jésus. Cela vous concerne aussi. Mais mon désir, c'est que vous puissiez être en paix avec Dieu. Certains disent et pensent, mais moi j'ai pas de problème avec Dieu. Mais Dieu a un problème avec toi, à cause du péché. Parce qu'il y a encore ce lien qui t'empêche, comme l'image que je t'ai donnée, de te rapprocher de lui. Ce matin, quel que soit, vous savez, ma préoccupation, c'est pas qu'il y ait beaucoup de monde, mais je ne me sentirai pas bien ce soir devant Dieu si je ne vous laisse pas la possibilité de l'accepter. Vous n'acceptez pas une église. Vous n'acceptez pas une religion. Vous acceptez cet homme qui pour vous dit « Tout est accompli ». Et si vous acceptez Jésus ici et que vous alliez dans une autre église, peu m'importe. L'essentiel, c'est que vous marchiez avec lui tous les jours. Et je sais que pour l'église ici, c'est le même désir. Si vous êtes bien ici, mais tant mieux. Je vous parle d'un homme, je vous ne parle pas d'une religion. Ce matin, s'il y a ne serait-ce qu'une seule personne, et encore une fois, s'il n'y a personne, c'est votre responsabilité de dire oui ou non. Si vous ne dites pas oui, vous dites non. Et vous êtes libre de dire non. Jésus ne se force pas, il ne s'impose pas. Mais si ce matin, il y a des personnes qui disent « Moi, je veux accepter ce Jésus. » Vous n'avez encore jamais fait cette démarche, ou vous l'avez fait il y a des années, vous avez quitté Jésus. Si vous dites « Moi, je veux revenir. Je veux avoir vraiment cette révélation. Je veux avoir vraiment cette vie nouvelle. » Alors que nos yeux sont fermés, si c'est votre cas ce matin, j'aimerais juste que vous puissiez lever la main là où vous êtes pour que je puisse vous voir. Et c'est un geste de foi. Quand vous levez votre main, vous la levez devant le ciel aussi en disant « Moi, je veux de ce Jésus. Je veux de ce Jésus. Je crois. Je sens que quelque chose se réveille en moi. Je crois dans ce tout est accompli. Simplement, pour que je puisse prier pour vous, s'il y a quelqu'un, juste tu lèves ta main là où tu es pour que je puisse te voir. Alléluia. Le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit, jeune homme. Le Seigneur te voit au fond. Alléluia. Le Seigneur te voit, jeune fille. Alléluia. Je ne veux pas durer. Je ne veux pas forcer. Vous êtes libre. Est-ce qu'il y a juste encore quelqu'un ? Vous êtes libre. Juste lève ta main bien haut pour que je puisse te voir. Seigneur, te vois au fond. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je pourrais vous demander à toute l'assemblée de se lever à votre place? Plusieurs personnes ce matin ont pris cette décision. Et je sais qu'il y en a certains, vous êtes encore tiraillés dans votre cœur. Je vous dirais simplement, n'attendez pas que votre cœur s'endurcisse à nouveau. Si aujourd'hui vous l'entendez, c'est aujourd'hui que vous devez lui répondre. Mais simplement alors que nous sommes là, pour vous tous qui avez levé votre main, vous êtes là dans cette salle, je vais vous demander la chose suivante. Si vous êtes d'accord, je vais vous demander de répéter une prière que je vais formuler. Ce n'est pas une formule magique, mais ça va vous permettre de faire un premier pas avec Jésus. Et puis après cela, encore une fois, que vous soyez dans ce lieu ou ailleurs, si vous êtes ici, l'Église m'a dit, il serait très heureux de vous offrir une Bible, de prendre du temps avec vous si vous avez besoin. Parce que c'est en connaissant ce Jésus qui est dans la Bible que votre vie est transformée. Et simplement pour que vous ne soyez pas seul, j'aimerais demander à l'Église de les encourager, de répéter aussi avec moi. Et si tu es d'accord avec ce que je vais formuler, simplement tu le dis de tout ton cœur. Et tu dis, Seigneur Jésus, dis-lui vraiment de tout ton cœur, Seigneur Jésus, ce matin, je t'ai entendu. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Je le crois de tout mon cœur. Et je décide de t'accepter dans ma vie. Je te demande pardon pour mes fautes. Toutes mes fautes. Lave-moi. Efface mes péchés. Donne-moi une nouvelle vie, une vie qui dépend de toi. Accepte-moi dans ta famille. À partir d'aujourd'hui, je te confie ma vie. Ce n'est plus moi qui la dirige, mais ce sera toi. À partir d'aujourd'hui, je fais un trait sur ma vie passée. Je reçois une vie nouvelle. Parce que je sais que tu as payé le prix pour moi. Merci Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encourager nos bien-aimés qui prennent cette décision ? Alléluia. Simplement, bien-aimés, nous allons terminer ce culte en prenant un temps de louange. Et nous allons prendre le temps de prier pour les malades. La Bible nous dit que quand nous nous réunissons en son nom, Jésus est au milieu de nous. Vous ne le voyez pas, mais nous le croyons. Il y a une puissance quand Jésus est au milieu de nous. Pendant que nous louons, que les malades simplement s'approchent, je crois qu'il y a une équipe de prière qui est là, on va prier tous ensemble. Mais vous qui êtes dans la salle, bien-aimés, louez le Seigneur. Soyez pas spectateurs de ce qui se passe. Je vous ai parlé de ce qui s'est passé sur la croix, ça devrait suffire pour que vous louiez toute la semaine. Toute l'année, toute l'éternité, je vous le rappelle, tout est accompli. Est-ce que tu peux dire amen à cela ? Tout est accompli. Et si quelqu'un, plusieurs personnes, vous avez levé votre main en disant « Moi, je veux prendre la décision de suivre Jésus. » Vous qui avez levé votre main, approchez-vous également. Dites-le à la personne qui va prier pour vous afin qu'elle puisse prier dans ce sens-là. Vous dites « Moi, je m'approche parce que j'ai donné ma vie à Jésus aujourd'hui, parce que je suis revenu. » Qu'on puisse vous offrir cette Bible si vous n'en avez pas et qu'on puisse prier pour vous. Alléluia. Que les malades s'approchent, que l'équipe s'approche et puis que l'équipe puisse conduire dans un temps de louange. Hein.